14h30 sur RL2.
Ich bin ein Berliner.
Entre ici, Jean Moulin.
Yes, we can.
Je vous ai compris.
C'est un vieux pays.
Vive le Québec libre.
I have a dream. I have a dream.
Bienvenue à tous sur l'Apnix. Comme d'habitude, je vous fais le speech d'habitude. Les meilleures associations lyonnaises sont avec nous. J'ai nommé Alexandre Corvaillant pour Manque pas d'air. Salut Alexandre.
Bonjour à tous.
Oumaima El Boumadi pour l'ADSP.
Salut.
Noémie Joudla pour le Jean Moulin Poste. Et Clément Dru pour Polygone.
Bonjour.
Voilà, aujourd'hui on va vous parler de l'Europe, de l'avenir de l'Union Européenne. On est tous concernés, on va essayer de vous faire une petite synthèse de la situation pour ceux qui n'ont pas suivi, qui vivent dans des grottes. Alexandre, toi, tu vas nous parler de l'Union Européenne dans le monde. Clément, de la montée des extrêmes, pardon, j'arrive pas à le dire. Oumaima, les échéances électorales européennes décisives qui arrivent. Et puis Noémie, de l'Europe de la défense. On en parle depuis 60 ans, tu vas nous faire le point sur la situation. Mais d'abord, comme d'habitude, on présente une association qui fait l'émission. On va parler cette semaine de Polygone. Polygone, tu en fais partie, Clément, qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, aujourd'hui donc je représente Polygone. On est basé à Lyon 3 à la manufacture des tabacs. C'est assez simple en fait. Il y a plusieurs pôles qui se distribuent le travail et chaque année, toute l'année, il y a des actions qui sont faites. Alors il y a les cafés débats. Il y en a en moyenne 5 par année où tout le monde peut venir débattre sur un thème d'actualité. On a l'organisation de conférences et de colloques. À grosse échelle, ouais. Et d'autres actions. On part pour les simulations des Nations Unies, beaucoup d'actions comme ça. C'est assez ouvert, c'est ouvert à tout le monde, justement, n'importe quelle filière. Donc, faut pas hésiter à venir, c'est super sympa.
D'accord, si vous avez besoin de vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur votre page Facebook, c'est Polygone.
Polygone Lyon, c'est le logo, vous ne louperez pas, c'est un lion. Avec les couleurs rouge, verte et blanche.
Voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment sympa. Mais du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, ne manquez pas, on a une petite surprise qui va se faire à chaque émission. On vous a prévu une petite animation. Rendez-vous en milieu d'émission, ça risque d'être plutôt rigolo. Mais du coup, on va commencer les chroniques.
Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ?
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Mais bien sûr que je peux le faire ! Qu'est-ce que je dois dire ?
Faut que j'arrête de dire du coup. On retourne sur l'Europe. Alexandre, c'est à toi. Tu nous parles de l'Europe dans le monde, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je pense pas que je vais vous apprendre grand-chose. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'Europe, de l'Union Européenne plus précisément, dans notre si beau monde. Au programme, beaucoup de généralités. Je pense que quelques rappels ne sont pas de mise. On en fait partie, par exemple. Voilà. En tout cas pour le moment, et je croise les doigts pour qu'on y reste. Et 27 autres pays en font partie. Où est-ce que c'est ? Grossièrement, on tire un trait de la Finlande au Portugal, puis de la Grèce à l'Irlande. On y ajoute les deux îles, Malte et Chypre. C'est environ 4,5 millions de mètres carrés qui contient la troisième plus grande population du monde, c'est-à-dire 500 millions de personnes.
Oui, bon d'accord, les généralités rentrent un peu dans le cœur du sujet.
Bien chef, avant le départ du Royaume-Uni, l'Union européenne reste la première puissance économique du monde. Elle totalise notamment 20% du marché mondial et plus de 15% des richesses mondiales, devant les États-Unis et la Chine. Pour une structure qui agace et qui concrétise tant de mots pour beaucoup de monde... C'est pas mal quand même. Oui, je sais, l'argent, les capitaux, c'est pas bien de parler d'argent. Mais en soi, c'est ce que l'Union européenne fait de mieux. Pour le moment, en tout cas. Pour preuve, d'autres groupements de pays se sont construits avec, comme exemple, l'Union européenne. On parlait de l'Union africaine, par exemple, la dernière fois. Et c'est assez marrant de se dire ça, étant donné que l'Union européenne elle-même s'est construite avec les États-Unis en tête. Les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne, c'est les USA à hauteur de 17% des échanges, qui ont notamment perdu en points de pourcentage depuis les années 2000, ce qui a profité à la Chine, qui arrive à 10% des échanges. On peut aussi citer trois autres partenaires, la Suisse, la Russie, qui a perdu en échange depuis le blocus suite à la situation en Ukraine, et le Japon. le Japon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on échange avec eux ? Eh bien, du matériel et des machines de transport, des biens manufacturés et des produits chimiques.
Oui, ça marche plutôt bien, mais assez parler d'économie, je crois, j'aime pas bien. l'Europe, c'est pas que ça, c'est pas que de l'économie.
Bon, on va parler politique étrangère, on aime ça au JI.
Eh bah, bien sûr.
En dehors de cette puissance économique incontestable, l'Union Européenne essaye tant bien que mal à faire émerger sa puissance diplomatique. T'inquiète Noémie, je ne parlerai pas trop de défense, voire pas du tout en fait. La dynamique, c'est d'essayer de parler d'une seule voix. Et oui, même en cette période de gros mouvements populistes. Sauf que 28 voix pour une, c'est assez compliqué. La PESC, la politique étrangère et de sécurité commune, date du traité de Maastricht en 1992. Le traité de Lisbonne en 1997 a quant à lui instauré un haut représentant de la PESC. C'est une étape vers une Europe plus politique. Bon, sur la scène internationale, il n'y a pas de vraie bonne représentation. L'Union européenne, elle est gentille, quoi. Elle les sert un peu à rien, et en matière de politique étrangère, surtout. Ah si, elle a aidé sur le conflit israélo-palestinien. notamment en demandant et en réclamant un droit à l'État pour les Palestiniens. Et elle est présente aussi dans les organisations internationales, notamment financières et de commerce. Mais bon, généralement, l'Europe, c'est quand même des politiques étrangères multilatérales. Donc c'est en progrès, mais c'est pas top pour le moment.
Ça va venir.
Voilà, l'Union européenne détient donc ses points négatifs et ses points positifs sur la scène internationale, comme par tour. Pour finir, je voulais oser un petit plaisir personnel en faisant une comparaison. L'Union européenne dans le monde, ça me fait un peu penser à l'Eurovision, en fait. Ça paraît cool, ça intéresse pas mal... Mais ça fait aussi surtout rire, et tout n'est toujours pas pris au sérieux.
Merci Alexandre.
En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés.
Vous le savez tous, l'Europe elle est en pleine crise, on le vit, c'est un peu notre tare quotidienne. Elle est démocratique, bon des fois on dit non, mais elle est quand même démocratique, sauf qu'en ce moment, la démocratie elle se pose plein de questions. On va essayer de vous faire un petit topo élection. Clément, d'abord tu vas nous parler de la montée des extrêmes en Europe.
Oui, tout à fait, ça va être le thème de ma chronique pour aujourd'hui. Alors voilà, ce thème, ou plutôt ce phénomène que je vais essayer d'ici d'aborder, vous n'êtes pas sans l'ignorer, il nous préoccupe beaucoup, et il préoccupe énormément l'Europe et l'Union européenne depuis plusieurs années. Alors pourquoi se concentrer sur la montée de l'extrême droite en particulier ? Bien, c'est un choix, pardon, de fait assez logique et totalement d'actualité, puisque très préoccupant pour la bonne vie politique de notre Union. La stabilité de l'Union européenne en dépend en effet largement. Et on peut d'ailleurs déjà noter un premier constat sur cette montée en puissance de l'extrême, c'est qu'elle est le corollaire d'une poussée de l'europhobie et de l'euroscepticisme depuis plusieurs années.
D'accord Clément, mais l'idée d'une montée de l'extrême droite au sein de l'UE reste quand même assez large. Est-ce qu'un tableau plus précis... Est-ce que tu pourrais pas un peu nous préciser la situation ?
Oui, alors en fait, tous les pays ne sont pas concernés de la même manière par cette poussée de la droite radicale en Europe. Certains le sont beaucoup plus que d'autres au vu des dernières élections, et notre pays en fait partie. En effet, lorsqu'on compare les résultats des dernières élections dans tous les États membres de l'Union, seuls 4 pays ont vu leur parti d'extrême droite radicale progresser fortement pour atteindre plus de 20% des suffrages. On retrouve donc la France avec le Front National de Marine Le Pen, le Danemark avec le Parti Populaire Danois de Christian Thulesen Dahl, l'Autriche avec le Parti de la Liberté de Norbert Hofer, et enfin la Hongrie avec le parti d'extrême droite ultranationaliste Jobbik de Gábor Vona. Et dans ces 4 pays, donc, les partis reconnus et affirmés comme d'extrême droite se sont illustrés, si je peux dire, aux dernières élections, et très précisément, très récemment, en France, avec le premier tour de la présidentielle. Bien entendu, il ne faut pas oublier les autres États et ne pas résumer cette montée de la droite ultra-radicale à ces seuls États cités. Et d'ailleurs, des partis comme UKIP au Royaume-Uni, Obdoré en Grèce ou encore l'Alternative pour l'Allemagne sont à reconnaître puisque eux aussi sont les protagonistes de cette poussée radicale en Europe.
Oui, mais on l'entend bien, mais c'est quoi les causes concrètement de cette montée de l'extrême droite ? Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont monté ces dernières années ?
Alors d'abord, il y a eu la crise économique de 2007 qui a fortement touché la plupart des États de l'Union européenne. On peut faire le lien entre la montée de certains partis ultra-radicaux l'accroissement des effets négatifs de la crise économique sur ces pays. L'exemple le plus flagrant, il faut aller le chercher en Grèce avec le parti politique Obdoré qui a été créé en 92 mais réactivé en 2007 et qui a surtout fait une percée dans le monde politique grec entre 2010 et 2013. En gagnant notamment beaucoup de sièges aux législatives nationales et 3 sièges au Parlement européen. L'exemple de ce parti est assez symptomatique de la tentation radicale adoptée par certains pays après la crise, notamment du fait que l'Union européenne ait décidé d'appliquer une politique économique de rigueur extrême envers ces pays en forte difficulté, notamment du sud de l'Europe. Il est toutefois impossible de ne pas faire mention de la crise migratoire, qui dure maintenant depuis plus de 3 ans et qui touche durement l'Europe et en particulier ses États frontières comme la Hongrie. Et cette crise migratoire, elle n'a fait qu'accentuer une crise identitaire européenne beaucoup plus large et profonde que nous n'avons sûrement pas voulu voir auparavant et dont on observe presque impuissant les conséquences aujourd'hui.
Donc en fait, ce serait plus une crise identitaire plus qu'une crise européenne.
Alors, je prétends pas avoir la réponse exacte, et d'ailleurs une réponse unique et claire sur ce sujet est assez difficile, mais c'est vrai qu'il semble assez évident que l'identité même de l'Union européenne et de sa politique commune soit le principal terrain de remise en cause des mouvements radicaux d'extrême droite qui ont émergé ces dernières années. La construction communautaire, elle s'est faite assez rapidement, peut-être trop rapidement d'ailleurs, et les gouvernements successifs, et on peut prendre ici l'exemple de la France, n'ont sûrement pas réussi à présenter l'Union comme un bénéfice conséquent pour tous. Et la crise identitaire s'est d'abord faite chez les personnes qui ne comprenaient pas bien les buts de l'Union européenne et ses objectifs fondamentaux. Alors avec un tel fondement, il semblait assez facile pour les différents groupes et partis politiques d'une branche très radicale de fonder leurs propos et leurs politiques sur la défense de cette Union et sur la défense de la nation et de l'identité nationale.
Mais pour conclure rapidement, le risque, on a bien compris, il est présent. Comment est-ce que l'Europe, elle peut surmonter cette montée de l'extrême droite ?
Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle pour éloigner ce risque, mais c'est d'abord par un changement d'esprit en profondeur que cette montée en puissance de l'extrême pourra être résorbée, si on peut dire. Comme j'ai pu le dire rapidement, plus tôt, tous les partis d'extrême droite en Europe ne sont pas les mêmes. Certains sont beaucoup plus radicaux que d'autres, à la limite du néofascisme et du néonazisme. Mais tous jouent sur le même rejet de l'Union européenne et de ses instances, sur la peur de l'autre et sur la primauté nationale. Ce populisme exacerbé et néfaste, parce que je ne pense pas que tous les populismes soient mauvais, n'est sûrement pas le moyen pour nous et pour nos pays de résoudre les crises ensemble. Il est fondamental pour chacun de nous de s'intéresser plus en détail à cette poussée pour en comprendre les tenants et les aboutissants et les idées qui véhiculent. L'Europe est selon moi une grande idée, une noble idée. N'oublions pas qu'elle nous protège plus qu'elle nous prive, et la voie de la collaboration sera toujours plus raisonnable et bénéfique que la voie de la rupture totale et de l'extrémisme politique. Ne refaisons pas les mêmes erreurs que par le passé, il s'agit aujourd'hui d'avancer ensemble et non les uns contre les autres. L'Europe est jeune, elle n'a que 60 ans tout juste, il serait donc dommage de vouloir lui imposer une retraite prématurée.
Merci Clément.
I realized that I had a purpose, and it wasn't just about me.
Let us fight with love.
On embraye directement avec Oumaïma qui va nous parler des élections à venir en Europe, celles qui peuvent avoir une véritable influence sur l'Union, c'est ça ?
Exact. Merci Flavien. Alors, depuis 1939, avec Adolf Hitler, on n'a plus de président d'extrême droite sur le continent européen. Ouais. Mais aujourd'hui, ce record est menacé par les tendances politiques extrémistes dans tous les coins de l'Europe, aussi bien en France qu'en Autriche ou aux Pays-Bas.
Parle-nous un peu des élections autrichiennes et des remous qu'elles ont causés.
Alors, tout a commencé en décembre 2016 avec Norbert Hofer du Parti autrichien de la liberté, FPO, qui s'est fait connaître en critiquant tout d'abord la politique de Merkel d'ouverture des frontières. En 2013, Norbert Hofer devient la figure de proue de son parti d'extrême droite, qui a en effet choisi de laisser partir ses barons vieillissants dans une tentative de dédiabolisation. Tentative qui, à mon sens, trouve écho en France, n'en est pas à certains, quand Jean-Marie Le Pen fut mise à l'écart au profit de sa fille Marine, ou que même encore plus récemment, cette dernière s'est retirée de la présidence du FN dans cette même optique de dédiabolisation. On retrouve encore des similitudes entre Norbert Hofer et le candidat ni de droite ni de gauche Emmanuel Macron, pas au point de vue idéologique, mais plutôt quant au processus de popularisation. En janvier 2016, la cote de popularité d'Hofer n'était que de 8% et le candidat demeurait en somme toute inconnu. Parallèlement, désigné comme ministre de l'économie en 2014, Macron ne bénéficiait pas non plus d'une popularité hors norme, n'était à mon avis pas très connu dans le monde français auprès des justiciables et des citoyens. Par-dessus le marché, quand, lors du premier tour des élections présidentielles autrichiennes, les deux partis traditionnels, socialistes et conservateurs, furent d'emblée éliminés, ne laissant qu'un candidat de l'extrême droite et un écologiste.
Ah oui, on voit la comparaison. On entend souvent parler des dramatiques conséquences de l'éventuelle arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Nous allons nous attarder plus amplement sur les conséquences qu'une sortie de l'Europe pourrait avoir sur la France, c'est très important de le dire.
Alors, ce que veut Marine Le Pen, tout d'abord officiellement, c'est reconquérir la souveraineté nationale monétaire en retournant au franc, mais en maintenant l'euro comme monnaie commune, ce qui mènerait à des taux de change titanesques et d'énormes pertes pour les entreprises. Mais bon, pas de souci, parce qu'après tout, Madame veut des produits nationaux, franco-français, un rapatriement des usines, bref, la fin de tous les processus qui permettent au FTN et au FMN de faire des économies.
C'est quoi une FTN et un MTN ?
FMN, c'est une firme transnationale et une firme multinationale.
Ouais, voilà.
Par-dessus le marché, Madame Le Pen veut que ce soit expéditif. Les négociations ne sauraient durer plus de 6 mois, alors que celles du Brexit sont supposées durer 2 ans. Mais passons. Cette volonté de sortir de l'Europe est, contrairement au Brexit, à mon avis, une illustration du repli identitaire hargneux, idée par laquelle Marine Le Pen se distingue tant dans la sphère nationale que dans la sphère internationale. Quoique, bon, elle peut trouver en Donald Trump un concurrent.
Il l'aime pas trop, je crois.
Si, il l'a encouragé après les attentats à Paris,
oui.
Après que le policier soit fait tuer, voilà.
Oui, d'accord.
Il a dit que ça allait dans son sens, mais il l'a encouragé aux élections. Bref, cette candidate, si ces candidatures furent tellement médiatisées, leur défaite in extremis pour certains est toujours considérée comme une victoire. Mais on ne se voile pas la face en refusant de constater que ces partis n'auraient peut-être jamais dû être si proches du pouvoir. Duellement, on devrait peut-être prendre le sujet d'un autre sens, d'un sens qui est très populaire en ce moment, surtout auprès des Républicains. Les médias ont-ils façonné l'opinion publique ? Devrions-nous, je cite, « enculer les médias ». Mais ces médias n'ont-ils pas porté ces candidats extrémistes au pouvoir ? En effet, ce n'est que depuis les élections présidentielles de 2002 qu'on sent la menace des extrêmes, aussi bien de droite que de gauche, planer au-dessus de l'Europe. L'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen fut, pour les justiciables du monde entier, à mon avis, une prise de conscience, un choc qui ôta le masque du déni aux politiques plus centristes européens. Car si l'on considère la défaite de Jean-Marie Le Pen comme une défaite, il s'agit avant tout d'une victoire pour le candidat qui, quelques années plus tôt, n'aurait probablement jamais considéré arriver au second tour des présidentielles.
Est-ce qu'on peut affirmer que l'on constate une espèce de bipolarisation encore plus accrue de la politique, du coup ?
Ben avant, quand on parlait de clivage politique, on pensait immédiatement aux partis socialistes, aux républicains, aux démocrates et aux republicans aux États-Unis, aux girondins et aux montagnards. La différence entre ces partis et les partis régnants aujourd'hui est que le clivage entre les deux hémisphères est d'autant plus accru, de telle sorte que les candidats qui se démarquent aujourd'hui par leurs idéologies ne font pas long feu dans des partis plus soft. C'est bien sûr une référence à Jean-Luc Mélenchon, qui jusqu'en 2008 faisait partie du PS et le quitta pour fonder le PC, parti aux idéologies bien plus extrêmes. Ce même Mélenchon qui est connu pour être un démagogue, qui est connu pour ses talents d'orateur et qui a donc pas hésité à attaquer Madame Le Pen sur ses convocations de police, s'est cependant tu lorsqu'il fallait donner des consignes de vote. Par déception, frustration, lassitude, ou est-ce peut-être un mélange entre la fatigue et la jalousie ?
Oui, c'est un débat national, un peu un débat pour tout le monde. On laisse l'avis de se faire à tout le monde, on ne prend pas position. Oui. Dans quelle mesure peut-on affirmer que les élections en Europe sont toutes inédites ?
D'après Mediapart, 8 candidats sur 11 en 2017 aux élections dans un pays européen sont des eurosceptiques. Aujourd'hui, au lendemain des élections présidentielles, le premier tour, la candidate Marine Le Pen est l'épitomée de l'euroscepticisme, si je puis dire. En Autriche, en 2016, on se réjouissait que le candidat des Verts passe alors que son adversaire, un Hofer plus que jamais déterminé à faire basculer la politique, aussi bien migratoire que sociale du pays, n'a eu que 44,6% des voix. Pareil, aux Pays-Bas, on entendait quotidiennement parler de l'envolée du candidat du Parti de la Liberté du PVV, un énième parti d'extrême droite de Geert Wilders, pour finalement constater sa défaite lors des législatives. Et ça rejoint mon idée concernant l'influence des médias sur l'opinion publique. Bref. Parallèlement, en Grande-Bretagne, le très contesté référendum du Brexit a eu raison du Premier ministre David Cameron en 2016, qui, aux grandes dames de près de la moitié du peuple britannique, démissionna. Cette nouvelle du Brexit fit cependant la joie de l'éminent politique britannique Nigel Farage, fondateur du UKIP, dont Clément a parlé avant, et artisan du Brexit. En effet, cet admirateur de Marine Le Pen lui souhaite de pouvoir, je cite, « renverser le projet européen ». C'est tout. En effet, il aimerait bien que la France lui emboîte le pas de l'Europe. Ironiquement, le peuple britannique traîne des pieds quant à sa propre sortie de l'Europe. Et face à cette vague contestataire, Theresa May, successeur de David Cameron, a annoncé le 18 avril le recours à des snap elections ou élections surprises. La Première ministre veut manifestement calmer les contestations en s'octroyant d'une manière plus démocratique, une légitimité à laquelle elle n'a pas eu droit. Enfin, ces élections sont un tournant. Si Theresa May fait face à un désaveu dans les urnes, non seulement elle perdra sa légitimité de Premier ministre, mais cela pourrait stopper le Brexit.
Merci, Oumaïma.
Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
On quitte un peu les élections, on en reparlera pendant le débat, ne vous inquiétez pas. Mais là, Noémie, tu nous parles de l'Europe de la défense.
Oui, tout à fait. C'est sûrement le point où l'Union européenne est la plus incertaine. En fait, dès le départ, il y a un paradoxe autour du duo Europe et défense. L'Union européenne a été voulue comme une union pacificatrice, donc ne pas l'armée irait dans cette logique. Aujourd'hui, les objectifs se sont élargis et l'Union européenne se voudrait une grande puissance qui pèse dans les relations internationales. Et pour que cela se concrétise, il faut la doter de moyens de défense. C'est seulement ainsi qu'elle pourra être vue comme autre chose qu'une union économique. Cette idée d'Europe de la défense, elle naît en 1954 avec la fameuse CED, Communauté européenne de défense. Et à tort ou à raison, c'est souvent ça qu'on retient de l'Europe et la défense, c'est cet échec. Il y a une raison factuelle au fait que ce soit un échec. D'abord, l'idée, c'était d'avoir plus de poids dans l'OTAN. Et d'un côté, on a le Parlement français qui refuse cette idée, car à un bout de l'hémicycle, les députés communistes voient ça comme une entrave aux soviétiques. Et à un autre bout, les gaullistes y voient un rapprochement avec les États-Unis. Ensuite, il y a une raison plus profonde, c'est que c'est une évolution trop rapide vers un passage aux politiques, alors que l'Union devait se construire petit pas à petit pas. Or, le résultat, c'est que par la suite, cette question a été un peu laissée sur le tapis. Et finalement, l'Europe s'est plus construite sur le plan économique. En parallèle, on a quand même l'UEO, c'est l'Union Europe Occidentale, qui a été créée pour assurer les missions de défense et des missions humanitaires. Ces missions, c'est des missions d'évacuation des ressortissants, d'opérations de gestion de crise et de prévention des conflits, donc les missions de Pétersbourg. Mais ça restera une union symbolique qui sera dissoute en 2011.
2011, mais du coup c'est fini, il n'y en a plus maintenant ?
Non, ensuite l'Europe petit à petit dans les années 80 va rayonner et les gouvernements vont bien se rendre compte qu'il manque la dimension politique. En parallèle de ça, on a des gros conflits qui naissent dans les années 90, notamment en ex-Yougoslavie qui réveillent l'Europe. Et par la suite, la PESD va être créée, c'est la politique européenne de sécurité et de défense. Aujourd'hui, elle est devenue la PSDC, politique de sécurité et de défense commune, donc tout plein d'acronymes. Et de nouvelles missions lui sont conférées du type désarmement, conseil et assistance en matière militaire et opérations de stabilisation et de fin de conflit. Et enfin, faut aussi citer l'Agence européenne de défense, l'AED, en 2004, qui est relative au programme d'armement européen. Donc tout ça, c'était un peu la partie rébarbative sur le plan institutionnel.
Et concrètement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une politique de défense ?
Alors aujourd'hui, il y a une politique de défense. Faut pas non plus s'imaginer une armée européenne un peu comme la monnaie parce que c'est pas ça et ça c'est impossible. Avant tout, faut noter que le contexte rend nécessaire cette politique de défense. Aujourd'hui, on a une véritable multiplication des conflits autour de l'Europe, notamment vers la partie sud, on a les tensions liées au printemps arabe, le conflit au Mali, en Centrafrique, en Libye. Vers l'est, on a eu les conflits en Ossétie du Sud et en Crimée. Il y a aussi une accélération des flux migratoires dont la gestion est presque impossible, la montée du terrorisme et en plus de tout ça, crise financière, identitaire, sécuritaire, montée des nationalismes, donc tout ce qu'on a abordé déjà. Et donc bref, pas mal de risques qui pèsent autour de l'Union européenne. Mais concrètement, contrairement à ce que j'entends souvent, l'Europe de la défense n'est pas non plus inexistante. D'abord parce qu'elle a réalisé de nombreuses opérations de gestion de crise, déjà sur l'espace européen, notamment en Bosnie et au Kosovo, où elle se fait tantôt le relais de l'OTAN, tantôt de l'ONU. Aussi en Afrique, par exemple, il y a l'opération Atalanta, qui est la plus connue sûrement, par rapport à la piraterie sur les côtes somaliennes. Ensuite, sur le plan technologique aussi, il y a des accords qui sont créés. Par exemple, des forces sont mises en commune comme un avion qui s'appelle Eurofighter, qui a été créé par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Mais surtout, l'industrie de défense est un secteur qui occupe une place très importante dans l'économie européenne. En 2012, le chiffre d'affaires relatif était de presque 100 000 millions d'euros. Et ce secteur emploie 400 000 personnes et génère 960 000 emplois. Et en tout plus de tout ça, l'Union européenne est bien dotée de capacités civiles et militaires, notamment avec Eurocorps et les Battle Groups, qui permettent de réunir 60 000 hommes et aussi en réunir en à peu près 15 jours, même s'ils n'ont jamais été utilisés, les Battle Groups. Donc tout ça, ça tendrait à dresser un bilan positif, mais malgré tout, l'Union ne s'est pas transformée en acteur stratégique efficace, l'OTAN reste supérieure et l'Europe de la défense n'est pas assez autonome. Et aussi, il y a un autre problème par rapport à ça qui peut être mis en lumière, c'est que les États dont l'armement est le plus important au sein de l'Union européenne ont le plus de poids dans les décisions et donc ça crée des tensions avec les autres États.
C'est pour ça que ça avance pas du coup.
C'est pour ça que ça avance pas, mais pas que, parce qu'on a aussi sur un fond de crise économique avec 2008 et au sein de chaque pays membre, il y a des problèmes budgétaires, des problèmes économiques, donc ça les incite pas vraiment à bouger. Il y a un manque de moyens accordés relativement à la défense. Les budgets des États sont en baisse et il y a une concurrence des pays émergents aussi d'ailleurs dans le commerce des armes. L'efficacité n'est pas non plus toujours au beau fixe, surtout la participation des pays évoqués est parfois symbolique. Des fois, ils envoient seulement une dizaine d'hommes dans les missions. Et ils ont mettent du temps à mettre tout en place. Et surtout, il y a une grosse difficulté à s'entendre à 28 et donc à 27 par la suite. Mais ça, c'est un problème plus large de l'Union européenne qui restera dans le débat.
Oui, et ben on en reparlera. Merci beaucoup, ouais. Noémie.
Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question.
Top, qui suis-je ? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir.
Mon Dieu. petite surprise. Je vous ai pas dit ce que c'était. C'est des questions en fait. On va un peu
okay.
vous divertir. C'est-à-dire qu'on parle de sujets très sérieux, mais c'est pas que très théorique. Il faut aussi se dire que c'est la vie quotidienne et qu'il faut qu'on s'en préoccupe nous. Et donc du coup, on va essayer de vous rendre ça un peu plus sympatoche pour vous. Voilà, je me transforme en Patrick Sébastien. du coup, le quiz, en gros, je vais vous dire comment ça se passe. On va poser des questions sur le thème. Donc, vous en êtes sans doute rendu compte, il y a un thème par émission. Bah, chaque émission, on va poser des questions sur le thème. Donc, aujourd'hui, ça va, c'est l'Europe. Quand ce sera l'Afrique de l'Ouest, hein, ce sera plus compliqué, mais bon. Là, c'est l'Europe. Donc, normalement, vous avez révisé?
Ouais, comme d'habitude.
D'accord, bon, on verra. Donc, je vous explique. Donc, pour l'instant, on est en bimensuel. Vous avez dû vous en rendre compte. Si vous n'en êtes pas rendu compte, c'est pas normal. Mais bon, on est en bimensuel. Normalement, l'an prochain, peut-être qu'on augmentera le rythme. Et donc, toutes les quatre émissions, on va faire un décompte, non pas des personnes, mais des associations, un décompte de points. Et donc, l'association qui aura le moins de points aura un gage plutôt rigolo pour vous à écouter, un micro-trottoir un peu buesque, un truc un peu rigolo, mais toujours dans ces thèmes. C'est important de vous faire rire aussi. Donc, les quiz, on va commencer. Vous êtes chaud ?
Ouais !
Du coup, on va commencer dans l'ordre de la table. On a une table. Vous verrez ça. C'est magnifique. On a une table. Donc, du coup.
Encore.
Voilà, on va faire dans l'ordre de la table. Donc, Oumaïma en premier, Noémie, Clément et Alexandre. D'accord ? Là, on va faire un tour en blanc. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper, vous n'êtes pas éliminé. D'accord ?
Ok.
Après. Ce tour en blanc. Si vous répondez mal ou que vous répondez pas, répondez quand même. Hein.
Ouais, ouais.
Sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, ça peut passer. Donc, si vous répondez pas, vous avez perdu. Si vous répondez, vous continuez. D'accord ? Normalement, j'ai un peu corsé. On verra si vous y arrivez.
Mais si jamais tout le monde a faux ?
Eh ben, si jamais tout le monde a faux, on arrête, on fait le débat. Voilà.
Et comme je suis le dernier, c'est moi qui gagne.
Exactement. Voilà, tout est logique. Bon, on commence. Mm-hmm. Bon, je vais faire un truc plutôt simple. C'est la première.
Je suis marocaine, donc.
Comment ?
J'ai pas la culture européenne, donc sois gentil.
Ah oui, il faut signaler qu'Omaïma est marocaine. Donc, hein, dans le débat, ça aura son importance. Donc, un truc assez simple. Tu fais des études de droit et de Sciences Po. Normalement, tu devrais savoir. Du droit, pardon. Excuse-moi. Qui est le président de la Commission européenne ?
Donald Tusk.
Bravo, Maïma, bravo. Merci. Bon, voilà, c'est simple, hein, mais ça va se corser après, ça va se corser. Noémie, c'est à toi, t'es prête ?
Prête.
Bon, je choisis. T'es forte, toi ?
T'avais dit de la Commission européenne ?
Ouais, de la...
Commission, c'est Jean-Claude Juncker. Oui. C'est le Conseil européen, Donald Tusk.
J'ai dit le Conseil européen.
Il a dit le Conseil européen.
Bon, c'était le tour blanc. Ça compte pour moi aussi, le tour blanc. Bon, question...
J'ai révisé un peu avant de venir. Pour ça.
Non, mais c'est bien. Bah écoute, une erreur bête. J'espère que mes profs m'écoutent pas. Bon, un truc assez simple. Qui c'est la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne ?
C'est Federica Mogherini.
C'est bien, Noémie. Ce sera plus dur au deuxième tour, hein ? Hein ? Ils font les malins, là, mais bon. Clément. Alors, Clément, dis-moi, à quel mois s'est passé le Brexit ?
À quel mois s'est passé le Brexit ?
Je sais pas si ma question est française.
Je dirais moi, j'aurais dit en juin.
En juin ? Tu valides ?
Je dis en juin, ouais.
Eh bah, bravo, t'as gagné. Le 23 juin 2016, ça fait presque un an. Vous vous rendez compte ? Ça passe vite. Bon. Alexandre.
Ouais.
Lyon 2, hein. Tu te rends compte que t'es le seul qui représente Lyon 2 ?
Oui, bon, ça va, là.
Donc, si tu perds, il y a toute la fac qui va te tuer en sortant.
Mais non.
dis-moi. Une petite question. Je trouve pas de question, là. J'essaie de te donner une question facile parce qu'après, on va dire que je t'en veux, dis-moi, quel est le dernier pays qui est rentré dans l'Union européenne ?
La Croatie en 2013.
La Croatie ?
Dans l'Union
Eh bien,
européenne.
Tu as réussi. J'avais noté autre chose. La mienne fait bien ses questions. Bon, on passe aux questions éliminatoires. Normalement, là, j'ai vérifié. Enfin, j'avais vérifié pour les autres, tu me diras. Donc, questions éliminatoires. J'espère que vous êtes prêts. Attention, question difficile. Oumaïma, quel est le nom du Parti Socialiste Allemand ? C'est en trois lettres. Attention.
Le SPD ?
Oui, excellent, bravo. Attention Noémie, c'est à toi. Plus compliqué, tu nous as dit Federica Mogherini. C'est la haute représentante pour la politique étrangère en Europe. Mais avant, c'était qui ? C'est une Anglaise.
Mais qui ? Je sais pas.
Non ? Tu sais pas ?
Non.
Tu peux pas perdre au premier tour, là. Non.
Mais il fallait être dans l'actualité, c'est une émission d'actualité.
Bah, c'était Catherine Ashton, je suis désolé. Oh. Ça va tomber, là. Hein. Je vous le dis, je suis méchant.
Ouais, c'est vraiment méchant.
Méchant. Je suis désolé.
À l'époque, on était encore jeunes. Hein,
C'est vrai. C'est vrai, mais tout à fait. Eh bien, écoute, tu as quand même perdu. Pas de joker, c'est comme ça, c'est la vie. C'est dur, ça taille sec. Attention, nouvelle question un peu compliquée. Dis-moi, est-ce que le mariage gay, Clément, est autorisé en République tchèque ?
Très bonne question.
C'est plutôt facile, t'as oui ou non ?
Je dirais non.
Ah, eh bien, c'est bien. C'est plutôt libéral en République tchèque par rapport à certains pays de l'Est. Il y a une union civile, comme en France avant 2013, mais il n'y a pas de mariage, donc bravo.
D'ailleurs, peu de pays en Europe, quand même, qui ont le mariage.
Oui, il y en a très peu.
Ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être.
Oh non, plus que ça.
Ou plus.
Un peu plus que ça.
Je ferai pas de décompte. Je ne les connais pas.
Ah non, moi, je ferai pas.
Voilà.
Vous inquiétez pas.
Il y en a quelques-uns. Voilà, il y a un S, c'est tout. Attention, Alexandre, c'est à toi. Question géographie, Alexandre.
Ça va.
Ljubljana est la capitale de quel pays ?
La Slovénie.
Il est fort. Hein.
Ah ouais, non, vraiment, là, c'est...
Ah non, mais géographie, moi, c'est mon truc, donc y a pas de souci, allons-y.
Bon, on va tailler plus sec, là. Oumaïma, dis-moi, Ah oui, mais
pardon.
Non, je vais pas être aussi sec. Bah si, je vais être aussi sec. Alors l'actualité, on va m'engueuler. C'est en rapport avec l'Europe. Où est mort D'Artagnan ? oui, où est mort D'Artagnan ?
Oula.
D'Artagnan du bouquin, Les Trois Mousquetaires ?
Oui, qui a existé en vrai.
Ah.
Il est mort à un siège, une grande ville européenne.
À Bruxelles ?
Non, allez, je te donne une autre chance parce que c'est vraiment compliqué. Attends, avant de répondre, ne va pas trop vite.
Je pense que j'ai une idée.
T'as une idée ?
Si, je peux me rattraper.
Louis XIV. C'est sous Louis XIV. T'es bien sous Louis XIV ?
Oui.
C'est sous Louis XIV.
Louis XIII.
S'il y a des historiens qui nous écoutent, c'est peut-être Louis XIII. C'est peut-être Louis XIV. On dira. Enfin,
Mazarin, quoi.
On dira Louis. Voilà. Louis. C'est Luigi. Donc, il a fait la guerre aux Pays-Bas.
Mm-hmm.
Tu n'as pas d'idée? Une grande ville, on la cite beaucoup.
Dans un traité, c'est le nom d'un traité?
Peut-être.
Le traité de Maastricht.
Bravo, c'est ça. Il est mort à Maastricht. Et du coup, on a fait un traité à Maastricht.
En 92.
Là, là où décision la France et la Hollande et toute l'Europe s'étaient battues. C'est quand même beau, hein.
Plutôt.
Ouais, j'aime beaucoup. Bah, Noémie, tu as perdu. Clément, question beaucoup plus difficile. Tu dois adorer la musique. Tu aimes la musique?
Oui, si c'est pas de l'Eurovision.
Et si, attention, tu sais sans doute, tu dois connaître, comment il s'appelait déjà notre concurrent? Eh bien, on ne le dira pas.
Notre concurrent, vas-y, moi je suis un spécialiste de l'Eurovision, il n'y a pas de souci.
Tu peux peut-être prendre la question sur l'Eurovision.
Attends.
Concurrent de l'an dernier, c'était
tu connais pas du tout qui a gagné l'édition de l'Eurovision 2016?
Facile.
Tu y arrives vraiment pas?
Non, je crois que je me souviens d'avant, je crois qu'il y avait un Autrichien qui avait gagné, mais alors l'édition de l'année dernière, je ne sais pas du tout.
Eh bien, c'était l'Ukraine.
D'accord.
Avec Jamala, 1944.
Exactement, l'Ukraine où du coup ils organisent l'édition de...
Cette année à Kiev.
Et il y avait eu quelques soucis, je ne sais pas si vous avez suivi,
ouais.
D'une chanteuse russe. C'est-à-dire qu'en fait, quand la Russie a annexé la Crimée, un moment très sympathique, quelques semaines après, cette chanteuse russe était venue faire des concerts. Bon, vous me direz, c'est une chanteuse, ça n'a rien à voir, mais quand même, un petit peu. Et du coup, l'Ukraine a refusé, je sais pas, j'ai pas suivi, mais il y a eu...
Moi, j'ai suivi toute l'affaire.
Et bah, dis-nous.
Il n'y a pas de souci. Alors, en fait, donc, il y avait ce conflit-là entre l'Ukraine et la Russie. La Russie qui avait dit tout de suite après que Jamala a gagné l'an dernier, qu'elle ne participerait pas, étant donné que la chanson, elle la considérait anti-russe. 1944, ça racontait l'histoire de la grand-mère de la chanteuse qui faisait partie des Tartares de Crimée qui avaient été massacrés par les Soviétiques. Et en fait, finalement, ils ont envoyé une chanteuse. Beaucoup de monde critique un peu ce choix étant donné que cette chanteuse est handicapée et que c'était un peu pour éviter que la Russie se fasse huer encore une fois à l'Eurovision. Ils s'étaient dit que voilà, c'est un peu la rumeur qui court autour. Hein, je n'avance pas trop non plus. Sauf que l'Ukraine avait spécifié dans son règlement qu'aucun chanteur ne devait avoir effectué de concert en Crimée. Après recherche, cette chanteuse avait fait des concerts en Crimée, donc l'Ukraine ne voulait pas du tout recevoir
la chanteuse, par rapport à l'État ukrainien.
Voilà. Ils avaient essayé de trouver des solutions via Skype, enfin des trucs assez bizarres. La personne responsable de l'Eurovision a reçu un appel le 1er avril d'humoristes russes, se faisant passer pour des politiques russes. Et après cela, elle avait dit, si ça continue comme ça sera pas l'Ukraine, ça sera l'Allemagne cette année. Et au final...
Ce sera l'Allemagne cette année?
Bah, en gros, si l'Ukraine ne veut pas accueillir la chanteuse russe et que la Russie veut pas arrêter non plus, ça se passera en Allemagne et ça se passera plus à Kiev. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que comme l'Ukraine ne voulait toujours pas, la Russie a dit, bah, écoutez, nous, on diffuse pas l'Eurovision. Tout simplement. Sauf qu'une des conditions pour pouvoir participer à l'Eurovision, c'est de le diffuser. Donc, du coup, la Russie a été exclue cette année de l'Eurovision.
Ah.
Tout simplement.
Ça, c'est plutôt bien fini.
Ouais, bah, plutôt.
Je sais pas, ouais. Bon. Affaire à suivre.
Ouais.
On y aura des remous les années suivantes. Mais attends, je réfléchis. Tu as perdu, Clément?
Exact.
Oumaïma. Tu as perdu?
Non,
il en reste deux en course.
Ah oui, Maastricht, punaise, mais j'oublie vite. Donc, du coup, c'est la finale, là. Je sais pas si vous savez. La finale, bah oui, vous savez forcément.
Je tiens à dire qu'Oumaïma a eu un indice, voilà.
Une deuxième, c'est pas du tout ma culture aussi, du coup je pars avec un handicap.
Alors, attention, c'est question mythologie.
Mythologie,
tu sais que notre continent s'appelle l'Europe, Alexandre?
Oui.
Est-ce que tu sais d'où ça vient?
Il me semble que c'est Zeus qui est parti charmer une princesse phénicienne et qui l'a déposée sur la Crète en Grèce. Donc cette princesse phénicienne, s'appelant Europe, a donné le nom au continent.
Et il était déguisé en quoi, Zeus?
Il était déguisé en taureau, il
me
semble.
Non mais je rêve, il connaît toute la page, quoi. Bravo. Ouais.
Bon, merci.
Le niveau s'annonce difficile. Oumaïma, c'est à toi. Alors attends, je
c'est
réfléchis.
C'est pas grave, t'as gagné, hein.
Tu feras des points pour un PE.
Parce que t'as un concurrent très très sérieux.
Ouais.
Tu connais sans doute l'agence Frontex ?
Non.
Tu ne connais pas l'agence Frontex, donc ce sera... Est-ce que tu en as parlé, Noémie, pendant ta chronique ?
Non, mais je connais.
Et bah, dis-nous, dis à peu près au même masque que c'est, non ?
C'est ce qui gère un peu, s'ils calculent, je sais pas, tout là, par exemple, toutes les arrivées de migrants et tout, ils font des espèces de statistiques comme ça par rapport au...
Quel visage qu'on
est. Oui, voilà, y a des c'est une agence où il y a aussi des gardes-côtes.
Ils ont lancé une opération, ça s'appelle l'opération Triton, par rapport aux gardes... Je sais plus si par rapport aux gardes-côtes ou...
Voilà, et bah, c'est une... Ah oui, mais du coup, ça va être difficile... Oh, quoi que t'as une chance, peut-être. Est-ce que tu sais où est basée l'agence Frontex ? Est-ce que tu autorises qu'on lui donne un indice, Alexandre ?
Oui,
ou
oui, 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 je vais pas dire non.
C'est dans les pays de l'Est.
À Sofia ?
Non.
Je sais pas.
Je suis désolé, c'est pas Alexandre grave. Qui a gagné. Bravo, Alexandre.
Wouh !
Ouais.
Merci.
C'était à Varsovie.
En Pologne.
En Pologne. Désolé, c'était compliqué. On te changera d'ordre la fois prochaine parce que j'ai l'impression que tu as un peu bénéficié de l'ordre de la table.
Ah oui, j'ai totalement eu ce que je voulais.
Et en même temps, tu nous as tous impressionnés avec l'histoire d'Europe, mais bref. Bravo, bravo. Bon, du coup, on compte, je vous dirai le classement. Donc, du coup, pour l'instant, manque pas d'air premier. Qui a perdu? Eh bien, ensuite, c'est l'ADSP en second. Clément Polygone et le JMP, ah ils vont pas être contents.
Le meilleur
hein.
pour la fin.
Eh bien le JMP, bon vous inquiétez pas, vous avez le temps de vous refaire, vous avez 4 émissions. Hein. Bref, on va passer au débat. Là je sais pas, on a parlé de pas mal de choses, de l'Europe. Du coup on s'est un peu préparé et du coup on s'est demandé en préparant l'émission, c'est vrai qu'il y a une montée des extrêmes, mais ces extrêmes, est-ce qu'ils veulent la guerre ? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Non.
Ah non.
Non.
Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît ?
Que veulent réellement les extrêmes en... Parce qu'on voit bien, en Autriche, il y a des extrêmes. En France, il y a des extrêmes. Aux Pays-Bas, il y a eu des extrêmes. Extrême droite. Extrême gauche, chacun jugera.
Extrême gauche de Grèce, déjà, par exemple.
Oui, voilà.
Espagne aussi. Podemos.
Oui.
Ah, exact.
Tout à fait. Que veulent les partis d'extrême ? Parce que il y en a qui veulent la souveraineté, l'indépendance, quitter l'Europe. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent arrêter totalement la coopération ?
Je vais prendre la parole en premier. Désolé. Je pense pas. Enfin, en fait, il y a oui et non. Enfin, oui et non. Enfin, en fait, il y a une certaine mesure à prendre dans ces questions-là, étant donné que ces pays-là disent. Vouloir sortir des traités, mais renégocier, avoir une autre Europe, ce genre de choses. Mais bon, le problème, c'est aussi qu'il faut avoir des électeurs, et que pour pouvoir avoir des électeurs, il faut avoir des électeurs qui sont pas convaincus sur tout et n'importe quoi. Donc du coup, est-ce qu'ils veulent vraiment sortir ? C'est ce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on dit, c'est ce sur quoi on résume et on synthèse. Mais est-ce que c'est ce qu'ils vont vraiment faire ? Est-ce que c'est ce qu'ils disent ? C'est pas...
Bah aussi, c'est pas forcément que la montée des partis politiques, ça traduit aussi le changement de mentalité des gens dans les pays. Ils jouent vachement sur ce changement de mentalité en jouant sur le repli sur soi des gens qui veulent un repli sur eux-mêmes par rapport à tout ce qui est crise financière et tout. Ils pensent que c'est la solution à tout ce qu'ils ont.
Mais est-ce que c'est vraiment la solution ?
Non. Bah, enfin, moi je pense pas personnellement. Mais parce que si on sort de l'Union européenne en soi, à mon avis, on aura plus à perdre qu'à gagner déjà.
Pourquoi ?
Parce que. Déjà, par exemple, tout le monde dit qu'avec l'Union européenne, l'euro, on a perdu de l'argent, etc. Mais si on en sort, déjà, l'argent, on va pas le récupérer, de un. Et de deux, les pays vont être encore plus refermés sur eux. Ils vont pas pouvoir exister vraiment sur la scène internationale. Pour moi, c'est vraiment un vecteur de puissance, entre guillemets, pour les pays par rapport aux relations.
Je crois qu'on en avait parlé. Au-delà de la puissance, c'est aussi, ça permet d'échanger. On n'a pas de taux de change, on n'a pas de choses comme ça. C'est quand même pas rien. Quand la France est en Europe, quand l'Allemagne est en Europe, quand même, je sais pas moi, l'Italie ou tout autre pays de l'Europe, on a accès à un marché de 400 millions de personnes. C'est même si 66 millions, c'est pas mal en France, c'est quand même autre chose. Est-ce que les extrêmes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça ?
Moi, personnellement, je pense déjà que les extrêmes, elles basent une partie de leur dialogue sur un constat, un postulat qui est assez faux à la base, c'est-à-dire de dire que, par exemple en France, que l'Europe nous prive énormément et qu'on est accablé par la technocratie européenne et tout ce genre de lexique-là. Alors que, justement, l'Union européenne, elle nous protège énormément, notamment au niveau juridique. C'est une protection qui est énorme. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le droit écrit français, il est à majorité, sa source à majorité, c'est la justice européenne qui nous l'impulse. Donc, je pense que les extrêmes jouent énormément sur ce faux constat, jouent justement sur cette peur et sur cette idée que l'Europe nous accable, alors qu'en fait, c'est pour moi tout l'inverse, elle nous protège. Certes, il y a des points négatifs, mais à majorité, elle nous protège et elle diffuse des valeurs qui sont nécessaires.
Bah justement, la France, l'Europe, est-ce que la France et l'Europe, c'est encore compatible ? Parce qu'on a quand même un candidat qui veut là totalement sortir de l'Europe et un candidat qui veut y aller à fond dedans. C'est quoi le juste milieu et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que feront les personnes qui sont pour l'Europe si Marine Le Pen passe et quitte l'Europe ? Qu'est-ce que ça peut provoquer pour vous ? Non.
Une grande tristesse.
Déjà, oui.
Oui, une grande tristesse.
Il y a la plupart, enfin, si on prend, par exemple, au début de l'année, il y a une enquête qui a été réalisée sur les jeunes en Europe, et la plupart des jeunes en Europe, eux, ils veulent rester dans l'Union européenne. Donc, si elle est, par exemple, si Marine Le Pen, elle passe, elle va organiser un référendum, bah, en tout cas, la part des jeunes, la plupart sont pour rester dans l'Union
européenne.
Pourtant,
on voit une montée de l'électorat jeune chez le Front National.
Ça, c'est pas, c'est vrai, c'est faux, parce que je sais pas si vous avez entendu parler de Monsieur Le Braz qui avait fait un bouquin sur le vote Front National, et il disait que déjà si on prend un électorat jeune de 18 à 30 ans, bah oui, effectivement, déjà tu mets un peu plus de personnes dans cet électorat-là, et ils votent pas plus que les autres Front National, ils votent autant que les autres Front National. Et c'est pas, ils votent pas plus national, ils s'abstiennent plus que les autres pour commencer. Oui. Donc là-dessus, c'est pas vrai. Et je voulais compléter ce que disait Noémie. Les jeunes sont pour ça. Et en fait, c'est une certaine génération de cinquantenaires, soixantenaires qui bloque un peu ça, qui n'a pas connu la guerre et qui a connu le tout début de la construction, qui ne sont pas nés dans l'Union européenne. Et c'est ces gens-là qui veulent vraiment sortir et qui impulsent le vote. En plus, c'est eux qui votent le plus. Donc du coup, c'est sûr que ça va favoriser le vote en la faveur de la sortie. Mais ce n'est pas les gens qui ont connu la guerre ou qui ont vécu toute leur vie avec l'Union européenne qui votent pour sortir.
C'est vrai qu'on le néglige assez. L'Europe, elle s'est construite pour la paix. Aujourd'hui, tout le monde dit la guerre, elle est très loin de l'Europe. Mais finalement, s'il n'y a plus d'Europe, si on revient à une Europe des nations souveraines, est-ce qu'on est vraiment loin de la guerre ? Je trouve que c'est quand même une certitude assez prétentieuse, non ? Vous trouvez pas ?
D'être loin de la guerre ?
Oui.
Bah,
ça changerait rien d'être, je pense,
en dehors de l'Europe.
Bah, y aurait pas plus ou moins de guerre si on était.
Je pense que si, moi.
On serait plus, y aurait parce plus que là, de tension si on était tous séparés.
Ils sont obligés de travailler ensemble voilà. Pour oui, non, poursuivre leurs intérêts communs. Si alors que si l'Europe est dissolue, ben est dissoute, ouais, voilà. Pardon, ben ils ont plus à ils ont plus à pardon à négocier entre eux. Ils vont juste poursuivre leurs intérêts quitte à
surtout qu'on va bien.
Par exemple, par rapport à l'Europe de la défense, il y a Jean-Luc Mélenchon qui disait l'Europe de la défense c'est la guerre. Mais si on sort justement, si on sort de l'Union européenne, bah au contraire, il y a plus de risques d'avoir des tensions s'il n'y a rien en commun. Et bah oui, s'il n'y a rien en commun.
Je vous pose une dernière question. Juste avant, on parlait sur la préparation de l'Europe à deux vitesses, justement par rapport à ces tensions. On voit très bien qu'il y a l'Europe de l'Est qui se détache totalement de l'Europe de l'Ouest. Clément, tu voulais réagir là-dessus.
Oui, et justement, c'est un peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit, parce qu'il ne faut pas oublier que l'intégration des pays de l'Europe de l'Est après l'explosion de l'URSS dans les années 90, cette intégration, elle s'est faite assez rapidement, et ces pays, ils sont d'abord rapprochés de l'Europe pour bénéficier de l'OTAN, en fait, pour justement avoir des moyens de défense conséquents face à ce qui est encore l'ennemi russe et ce qui peut et ils peuvent le considérer encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette image de l'Europe de l'Ouest qui tire l'Union européenne vers le haut et l'Europe de l'Est qui essaye de s'y accrocher et qui s'y accroche en grande partie pour la défense et pour les moyens qui sont donnés.
Ouais, l'affaire est à suivre. Je conclue juste une question super importante pour moi, parce qu'on la voit autant chez Jean-Luc Mélenchon, autant chez Marine Le Pen. On dit que l'Europe, elle est très oligarchique, technocratique, que ça n'avantage pas les travailleurs, que même ça les désavantage. On parle beaucoup du travail détaché. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Est-ce que l'Europe affaiblit vraiment les travailleurs et les personnes de classe, pas inférieure, mais de classe
modeste,
voilà.
Oui, avec le dumping social et les délocalisations que Marine Le Pen et même Jean-Luc Mélenchon critiquent tout le temps, la France délocalise dans des pays de l'Est et certes, ça profite aux entreprises françaises ou même des pays du Nord. Et les travailleurs, la main-d'œuvre des pays de l'Est qui est donc qui trouve un job effectivement, et donc ça comble ce vide, elle est plus au chômage, mais les avantages sociaux sont terribles.
Oui, mais je me demandais justement, est-ce que les pays de l'Est vont accepter de se faire exploiter comme ça pendant longtemps ? Parce que payer 400 euros par rapport à en France où on paye 1200 euros, enfin c'est quand même un écart, un fossé énorme. Est-ce que vous pensez pas que ça va s'équilibrer avec le temps ?
Ah bien sûr que si. Il y a un cycle, hein, c'est un peu comme ça, c'est un peu horrible à dire aussi en quelque sorte, mais il y a un cycle qui fait que c'est ce qui se passe en Chine aussi également. Là, les entreprises qui sont délocalisées en Chine se délocalisent maintenant vers la Birmanie. Pourquoi ? Parce que à force de s'implanter, les gens gagnent un peu plus. Et les acquis sociaux vont vouloir demander. Donc, il y aura des minima sociaux et tout ça dans tous les pays. Donc, il y aura une uniformisation à la clé.
Oui. Donc, en fait, tu voulais rajouter quelque chose
juste
très rapidement
sur ça. Justement, je pense que l'Europe réagit depuis 2013-2014 avec des réformes dans ce domaine. Et justement, là, ce qui a été évoqué encore le 26 avril, donc c'était il y a quelques jours, l'idée d'un socle social commun qui, justement, donnerait plus de droits sociaux à tous les pays et à tous les citoyens européens. C'est pas des mesures contraignantes, mais c'est pousser les pays à aller vers cette idée-là.
Donc c'est encore à faire, on va terminer, on est un peu en retard. Donc en fait, finalement, l'Europe sociale, ça va se faire, mais ça prend énormément de temps. Et finalement, est-ce que quitter cette Europe, c'est pas mettre un terme à cette dynamique qui est extrêmement longue d'intégration ? Je vous laisse y répondre chacun chez vous. Merci de nous avoir écoutés. C'est un débat qui va durer sans doute encore 30 ans. Donc pas de souci, on reviendra. Retrouvez-nous sur RL2 pour les pages Facebook. N'hésitez pas à aller voir sur la description. Il y a tout le nom des associations. Allez voir sur Facebook. On vous retrouve dans 2 semaines pour une autre émission. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Salut.
Ich bin ein Berliner.
Entre ici, Jean Moulin.
Yes, we can.
Je vous ai compris.
C'est un vieux pays.
Vive le Québec libre.
I have a